Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal.
On s'informe avec vous, Nalimane, bonsoir.
Bonsoir Hakim, madame, monsieur, bonsoir. Les performances des sélections nationales militaires d'athlétisme et de cross-country aux mondiaux militaires d'Athènes saluées par le président de la République dans une publication sur son compte X. Le président félicite nos athlètes pour leur titre. Troisième jour de bombardement sur plusieurs villes iraniennes. La capitale Téhéran est touchée. Les médias iraniens évoquent des explosions près du site nucléaire d'Isfahan. La sous-région s'embrase. Des installations énergétiques qataris sont affectées. Doha annonce l'arrêt de sa production de GNL. Tindouf sera dotée d'une deuxième station de déminéralisation. Les travaux lancés aujourd'hui, elle produira 10 000 mètres cubes d'eau potable par jour. Plus de 650 opérateurs comptent investir dans la production de polymères, une cinquantaine de projets déjà lancés. La API et les investisseurs tracent une feuille de route pour développer la filière. En sport football, les Verts affronteront le 3 juin prochain les Pays-Bas en match amical à Rotterdam. Mais avant, notre sélection féminine affronte les Égyptiennes ce soir au Caire. Bonsoir à toutes et à tous. Nous vous le disions en titre, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a félicité aujourd'hui la sélection nationale militaire d'athlétisme qui a décroché les premières et deuxièmes places dans deux disciplines du championnat militaire de cross-country organisé en Grèce. Sur son compte X, le chef de l'État a félicité nos athlètes et leur souhaitant d'autres sacres. Félicitations également du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chengi. Tindouf aura une deuxième station de déminéralisation d'eau. Les travaux pour sa réalisation sont lancés aujourd'hui par le ministre de l'Hydraulique. La station annoncée en Conseil des ministres va produire 10 000 mètres cubes d'eau potable par jour. On écoute à ce propos le ministre Tahad Erbel.
Une station d'une capacité de 10 000 mètres cubes jour s'inscrit dans la mise en œuvre des directives du président de la République afin de garantir aux citoyens un accès à une eau de qualité. Ce projet traduit l'importance accordée par l'État et le président de la République au service public de l'eau. Nous espérons que ces projets se réaliseront dans les meilleurs délais et conformément aux normes internationales.
L'eau est une ressource rare en Algérie, il faut la préserver. Des start-up apportent des solutions innovantes pour utiliser la moindre goutte de cet or bleu à bon escient. Le ministère coordonne avec celui de l'hydraulique pour appliquer ces solutions sur terrain. Les détails avec le ministre de l'économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, Nourdine Wadah.
L'initiative que nous lançons vise à une intégration plus large de la technologie et des solutions innovantes développées localement par des start-up dans le secteur hydraulique, qu'il s'agisse de l'exploitation de la ressource, du dessalement ou de l'épuration des eaux usées, dans le même temps la participation des micro-entreprises dans la chaîne de valeur pour augmenter le taux d'intégration, réduire l'exportation et atteindre la souveraineté technologique dans ce domaine stratégique.
L'actualité, c'est également ces bombardements qui se poursuivent sur l'Iran, des frappes qui se poursuivent pour le troisième jour donc d'affilée. La sous-région s'embrase, plusieurs pays sont touchés par ces attaques. Le Liban est bombardé, le Qatar est également affecté. Doha a annoncé l'arrêt de sa production de GNL, des développements rapides. Les derniers, avec vous Liestrini, bonsoir.
Bonsoir. Troisième jour d'escalade militaire majeure au Moyen-Orient et les gardiens de la Révolution affirment avoir visé plus de 500 cibles liées aux intérêts américains et sionistes dans la région. Téhéran dit avoir lancé plus de 700 drones et des centaines de missiles en représailles aux frappes menées sur son territoire. En Iran, les bombardements auraient fait au moins 555 morts. Selon le Croissant Rouge, de nouvelles explosions ont été signalées à Téhéran, mais aussi près de la base aérienne et du site nucléaire d'Isfahan. Au Liban, la banlieue sud de la capitale a de nouveau été visée. L'entité sioniste affirme avoir éliminé le chef des services de renseignement du Hezbollah lors d'une frappe à Beyrouth. Le premier ministre libanais annonce de son côté l'interdiction totale de toute activité militaire du Hezbollah, appelant le mouvement à remettre ses armes et à ne pas dépasser le cadre politique. L'armée américaine a reconnu que deux avions de combat écrasés au Koweït auraient été abattus par erreur par les défenses aériennes koweïtiennes. Le président américain Donald Trump n'exclut pas l'envoi de troupes au sol en Iran si cela s'avère nécessaire, dit-il, estimant que l'offensive américaine est en avance sur le calendrier après l'élimination de hauts responsables iraniens. Conséquence directe de l'escalade, le trafic aérien régional reste fortement perturbé et l'issue de ce conflit demeure incertaine.
Et le monde s'interroge combien de temps va durer cette guerre. Pour Donald Trump, 4 semaines, il l'a annoncé lors d'une nouvelle intervention ou lors d'une intervention sur Fox News, évoquant même la possibilité de négociation. Le Ali Larijani lui répond, son pays ne négociera pas avec les États-Unis. Une autre déclaration de Donald Trump est attendue à 17h, heure américaine. Et plus de 2000 bombes sont larguées sur l'Iran depuis la première vague de frappes américano-sionistes, alors que la République islamique dispose du plus vaste arsenal balistique du Moyen-Orient. Mais la faiblesse principale des forces iraniennes est la projection aérienne, n'ayant pas les moyens, par exemple, de se projeter jusqu'à l'entité sioniste, attaquer et survivre. Les détails avec l'expert en stratégie militaire, Robert Morachini. Il répond à l'Istri.
La plupart de l'armement iranien est un armement d'abord disparate, beaucoup datant des années 80, des avions américains vieillissant aux capacités limitées, absolument pas de capacité d'approvisionnement en l'air. La production locale d'avions ne répond pas du tout aux critères actuels de modernité et ne peut absolument pas faire face ni aux Américains ni aux Israéliens. Donc dans ce domaine-là, les Iraniens sont absolument surclassés. Dans le domaine de la défense antiaérienne, ils sont un peu mieux armés avec des missiles S-300 russes. L'unique moyen de défense de l'armée iranienne, ça reste les missiles avec des sites de lancement plus ou moins cachés, des vecteurs qui se déplacent.
On le disait, le Qatar a annoncé que des installations énergétiques sont touchées, ce qui a contraint Doha d'annoncer l'arrêt de sa production de GNL. Les marchés énergétiques s'enflamment, les prix du GNL augmentent de plus de 50% dans les bourses européennes. Le Brent frôle les $80 le baril. Quel impact risque d'avoir ces attaques sur le secteur de l'énergie? Nous avons posé la question à Barded Mendouche, expert en questions énergétiques.
Le Qatar étant le deuxième producteur et exportateur de gaz, ceci va impacter principalement son premier client qui est la Chine, mais également l'Europe, qui est également un client par GNL acheminé à travers le détroit d'Ormuz, qui est lui-même fermé, 20 millions de barils par jour qui transitent par ce canal. Et donc, ceci va induire automatiquement une insuffisance de l'offre, aussi bien en pétrole qu'en gaz. Il y a également l'Aramco, compagnie saoudienne qui vient de décidé de la fermeture de la plus grande raffinerie en Arabie Saoudite. Ceci va impacter l'offre en carburant, principalement en direction des marchés européens.
Les réseaux sociaux suivent et réagissent cette actualité. Un record battu sur la plateforme X, ex-Twitter, avec une affluence extraordinaire. L'usage et les interactions explosent ces derniers jours avec ce conflit au Moyen-Orient. Véritable instrument d'influence, il diffuse des informations réelles et d'autres maquillées, voire fausses. Samia Allou.
Transformer l'émotion en levier d'opinion, des statuts et publications en informations volatiles. À chaque début de conflit, de guerre ou de crise majeure, les réseaux sociaux, dont X, anciennement Twitter, s'activent pour tenter de suivre dans les moindres détails les actions sur le terrain. Un suivi qui laisse souvent place à de nombreuses inexactitudes. Des informations erronées circulent, volontairement ou involontairement sont manipulées. L'objectif peut être de tromper, mais aussi de mener une guerre psychologique à travers le doute, le malaise ou la confusion. Dans ce contexte, l'internaute doit toujours vérifier à deux reprises avant de confirmer ou de relayer une quelconque information. Jalal Bouabdallah, expert en transformation numérique et cybersécurité.
Dans un contexte de tension, il est évident que les opérations cyber jouent un rôle central. Frapper un réseau téléphonie mobile, perturber une connexion internet ou manipuler l'opinion publique via les réseaux sociaux permet de déstabiliser un pays sans franchir immédiatement le seuil d'une escalade militaire classique. Le cyber L'espace est devenu un champ de bataille à part entière, mais il est particulier, il est transfrontalier, invisible et surtout la guerre numérique vise donc le fonctionnement même de la société.
Face au flot continu d'images spectaculaires, de vidéos virales et de témoignages parfois impossibles à authentifier, il est impératif de prendre du recul et d'éviter toute réaction impulsive. Des techniques existent pour distinguer le vrai du faux, vérifier la source initiale, croiser l'information ou encore essayer la recherche inversée d'images pour éviter de tomber dans le piège fake news.
Nouvelle session de formation au profit des médias nationaux sur l'approfondissement de la démocratie et l'éthique de l'acte électoral. Une formation lancée par le ministère de la Communication et l'Autorité nationale indépendante des élections. On écoute à ce propos le président par intérim de l'ANI, Karim Khelfen. Il est au micro de Hanan Seissi.
Mettre à la disposition de tous les participants le maximum d'outils à même de leur permettre de faire leur travail dans les normes qui sont les siennes, mais aussi les normes qui sont celles de l'ANI et du processus électoral de manière générale et pour l'intérêt final du processus lui-même, de tous les intervenants dans ce processus et pour les institutions qui vont bien évidemment voir le jour après les différents processus électoraux.
L'université algérienne renforce sa contribution à la diversification de l'économie nationale. Une société d'investissement universitaire est agréée par la COSOB. Erim Boukadou.
Une première en Algérie, la COSOB autorise la levée de fonds de la société d'investissement de l'Université d'Alger 3 dotée d'un capital de plus de 188 millions de dinars. Il s'agit du tout premier fonds de capital risque à caractère universitaire dans le pays. Le capital risque consiste à investir dans des startups innovantes dès leur première phase en misant sur leur potentiel de croissance. C'est un outil stratégique pour transformer les résultats de la recherche et les idées des étudiants et chercheurs en entreprises concrètes créatrice de valeur. Avec cette initiative, l'université ne se limite plus à sa mission académique, elle devient un acteur économique à part entière, contribuant à la diversification et à la consolidation de l'économie nationale à travers le financement de l'innovation et l'accompagnement de projets à forte valeur ajoutée.
Toujours au chapitre économique, un matériel fortement demandé par différentes industries et les opérateurs l'ont bien compris ou ils ont compris l'intérêt d'investir dans sa production. Il s'agit du polymère ou ce que nous appelons le plastique. L'API réunit les potentiels investisseurs dans un atelier organisé avec le CREA pour mettre en place une feuille de route solide pour développer cette filière. Le potentiel est important. Plus de 650 projets d'investissement sont déjà enregistré par l'agence d'investissement. Les détails avec Omar Kesh, directeur général de l'agence. Il est au micro de Khadija Arzel.
L'objectif recherché de ces ateliers est d'orienter efficacement l'investissement productif, identifier aussi les projets d'investissement économiquement viables et réalisables. Le secteur de plasturgie et de polymère est vraiment stratégique. Il touche de nombreux domaines, de l'industrie, de l'agroalimentaire, de la pharmacie, le bâtiment, même l'industrie automobile, l'agriculture. Donc nous avons à ce jour, au niveau de l'API, enregistré 675 projets d'investissement dans différents sous-segments de cette activité pour un montant de 238,7 milliards de dinars, avec la prévision de création de plus de 15 000 postes d'emploi directs. 51 projets qui sont en stade d'exploitation. Ils sont rentrés en production.
Place au sport à présent, on va parler football. La Fédération algérienne de football vient d'annoncer l'organisation d'une troisième rencontre amicale pour préparer le mondial. Islam Tazibt.
La Fédération algérienne de football a annoncé ce lundi l'organisation d'un troisième match amical dans le cadre de la préparation du Mondial 2026 qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Après les rencontres déjà prévues contre le Guatemala et l'Uruguay, programmées en Italie respectivement les 27 et 31 mars prochains, les Verts affronteront cette fois-ci la sélection néerlandaise à une semaine du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Pays-Bas-Algérie, ce sera donc le 3 juin prochain au Feyenoord Stadium à Rotterdam.
Football toujours, nouveau rendez-vous pour l'équipe nationale féminine ce soir en match amical toujours Islam Tadipt.
L'équipe nationale féminine de football affronte en amical son homologue égyptien ce soir à partir de 20h30 dans le cadre de sa préparation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Cette rencontre intervient quelques jours seulement après la large victoire des Algériennes, 3-0 face au même adversaire. Le match de ce soir représente un nouveau test pour les joueuses algériennes appelées à confirmer leur progression et à affiner les réglages avant le grand rendez-vous continental.
Et c'est avec cette information sport qu'on arrive à la fin de cette édition. Elle a été réalisée par Sidali Toubal et Ali Laouissi. Samir était à la technique, Hossine à la régie d'antenne. Merci à vous de nous avoir prêté attention tout de suite. C'est la météo avec Hakim Bey. Bonne suite des programmes sur Alger Chaîne 3 et Sahaf Tour.